Ce matin, je voudrais apporter ce message que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette Église et pour ce moment précis que nous vivons en tant que Pentecôte. Concernant la Pentecôte, lorsqu'il me joue des tours, ce truc-là. Alors, je travaille sans filet parce que j'ai laissé mes notes chez moi. Je compte sur le Saint-Esprit. Le Seigneur me fait une blague. Mais je vais essayer de m'en sortir. Donc, je voudrais lire le discours de Pierre. Je vous lis juste des extraits de ce discours qui a été prononcé à la première Pentecôte. C'est un discours de Pierre qui, bien sûr, avec les 120 qui étaient dans cette chambre haute, a été ébranlé par ce bruit d'un vent violent. Il est sorti, il avait toute la foule, et il annonce l'évangile qui touche les cœurs. Alors Pierre se leva, entouré des 11, puisque le 12e, il s'est pendu, et d'une voix forte. Alors, la voix forte, on peut la transformer, vous allez voir tout à l'heure, j'utiliserai un mot qui est grec, mais vous comprendrez plus tard pourquoi je l'utilise. C'est le mot « proclamation ». Il proclame. La voix forte, c'est proclamer. Il proclame à la foule. En effet, je ne lis pas entre deux, entre le verset 14 et verset 25, c'est toute l'histoire qu'il raconte sur ce qui s'est passé, l'histoire de Jésus qui a été prophétisé et qui s'est passé. Et le verset 25, il dit « En effet, David dit de lui, donc de Jésus, du Messie, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est plein de joie. » On a parlé de la joie cette semaine. Eh bien, vous voyez, c'est le cœur qui est rempli de joie. C'est important pour la suite du message de se rappeler de ça. « Et pourquoi mes paroles débordent d'allégresse ?» Vous voyez, c'est vraiment de l'allégresse et de la joie. « Même mon corps reposera dans l'espérance. » Ça, c'est très important pour le message de l'Évangile, le message de la première Pentecôte et de nos Pentecôtes à nous, de se rappeler que ce passage, c'est David, puisqu'on parlait aussi de David depuis 6 mois déjà. David dit de lui, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi, car il est à ma droite. » Vous voyez, celui qui est à la droite, c'est celui qui est l'armée, qui protège le roi. Pour que je ne vacille pas. Donc, vous voyez, il était conscient, David, que le Seigneur était à ses côtés. Et c'est pour ça qu'il était dans cette sérénité, toutes les histoires que Michel a évoquées dans l'Ancien Testament. Il savait que si Dieu l'avait choisi, c'est Dieu qui lui donnerait l'autorité. Voilà. Et ça, c'est la confiance d'un serviteur de Dieu qui sait qu'il a été choisi. Il sait que les hommes, quels qu'ils soient, tous les complots qui peuvent arriver, ils n'habiteront à rien si Dieu a décidé. Et ça, c'est la base du serviteur de Dieu. Et voilà, mon cœur est plein de joie et mes paroles débordent d'allégresse. C'est formidable, ça. Vous voyez, message de Pentecôte, message de l'Évangile. Et même mon corps reposera dans l'espérance. Verset 37, je passe donc. C'est très long, cette annonce. Après avoir entendu ce discours, donc ce discours, c'est la proclamation dont on vient de parler, la voix forte. Et là, c'est le verbe kérigma qui est utilisé en grec, puisque tout est écrit en grec. Et vous allez retrouver ce mot kérigma, kérigme, kérous, etc., qui est la base même de la théologie évangélique aujourd'hui que nous portons dans cette Église et que j'ai moi-même abordé et que j'aborderai à la rentrée, je reprendrai la suite, c'est le mot kérigma, c'est le mot proclamation, proclamer. Ils eurent le cœur vivement touché. Voyez-vous, la proclamation de l'Évangile a touché les cœurs. Et ça, c'est le centre de la Pentecôte et le centre des Pentecôtes. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est-à-dire qu'après la proclamation, après le cœur vivement touché, il y a « qu'est-ce que je fais ?» Et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit Alors je ne le lis pas, hein, mais repentez-vous, etc. Et la conséquence, le verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La prière est aussi quelque chose qui fait partie de cette communion, de cette communauté fraternelle. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le cœur revient très, très souvent. Voilà, donc vous relirez ce discours, cette proclamation, ce kérigme chez vous pour ce temps, pour que vous puissiez vous imprégner de l'Évangile. Ça, c'est le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que l'Évangile ? Justement, on parle de l'Évangile. Est-ce que c'est une religion, une nouvelle religion ? Est-ce que c'est une nouvelle ? Alors, il faut bien se rappeler que le mot... Enfin, ce que Pierre a fait, il a proclamé l'Évangile. Et sans proclamation, il n'y a pas d'Évangile. Il faut que nous soyons des proclamateurs. Il faut que nous soyons de ceux qui proclament que le règne tout-puissant de Dieu, comme roi, eh bien, s'exerce par sa parole, le Logos. Et l'apôtre Jean et tout l'Évangile de Jean repose sur le Logos. Le Logos était au commencement et c'est lui qui... Et le Logos, vous voyez, c'est... En grec, c'est le raisonnement, mais c'est aussi Christ. Parce que Christ, il annonce les vertus de Dieu, et le premier homme qui parle de la part de Dieu. Donc ça, c'est important, et ça sort de la parole de Dieu. Et ce n'est pas juste la Bible, hein, qui sont des écritures, mais c'est la parole. La parole, le réma, parole réma de Dieu. Alors... On a aussi le mot kérux, kérux, kérigma, kérux, etc. Bon, c'est des déclinaisons. C'est le héros. Enfin, H-E-R-A-U, hein, c'est pas L-T-O. C'est pas le héros qui a gagné la guerre. C'est le héros qui est un porteur d'armes, qui porte le triomphe de la victoire du roi ou de l'empereur qu'il sert. Hein. Donc, c'est un officier qui est chargé publiquement. Et il proclame la victoire. Et la victoire, c'est le kérigme. Donc, il proclame, donc c'est ce qu'on appelle le kérigme, le kérux. Et donc, on a cette définition qui est un annonceur. Donc, le porteur d'armes, c'est un annonceur ou un messager investi d'une autorité publique qui convoyait les messages officiels des rois. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est traduit par les ambassadeurs de Dieu que nous sommes supposés être. Annonceur ou prédicateur de la parole de Dieu, donc ça c'est ceux qui sont chargés de la prédication, ministre de la parole et de la bonne nouvelle de la croix. Et donc aujourd'hui la bannière, hein, ce n'est plus une bannière comme ça de victoire de l'empereur, la bannière c'est la croix. Et c'est pour ça qu'on a mis la croix ici, quand on a reconsacré ce théâtre casino en temple pour célébrer l'Éternel. Et d'ailleurs, Paul, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 11, il dira « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur », c'est-à-dire « kérux », c'est-à-dire celui qui porte la bannière, et « apôtre chargé d'instruire les païens ». Voyez-vous, c'est une question d'instruire. Instruire, apporter une nouvelle que personne ne savait, qu'il y a une victoire qui a été gagnée. Et aujourd'hui, eh bien, notre bannière, c'est notre logo. Et je te remercie au passage, Alexis, qui a magnifiquement réussi à synthétiser ma pensée, qui est le Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, avec la croix, et Ictus, qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc on a le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, et ensuite le Père, le Fils, Saint-Esprit, donc le symbole des apôtres. Le contenu du kérigme, c'est contenu dans le symbole des apôtres. Alors, on appelle ça symbole des apôtres, on appelle ça c'est au premier concile hein, qui a réuni l'ensemble des pères de l'Église de l'époque, hein, qui a été travaillé pendant 3 siècles, pour créer la base de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Jésus, le Sauveur, etc., et le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la base du Dieu Trinitaire, symbole des apôtres. C'est le contenu du kérigme, la proclamation. Si nous ne proclamons pas ça, nous ne sommes pas dans le christianisme, voyez. Parce que c'est la base même. Si nous ne comprenons pas que Dieu est un et trois, et qu'il a envoyé son Fils, qui était Fils de Dieu et qui était Fils de l'homme, Jésus d'ailleurs s'est toujours déclaré Fils de l'homme. Donc, en fait, il a créé une nouvelle humanité. Et donc, ça, c'est un mystère, mais voilà, qui ne peut être compris que dans une pensée complexe, parce que qui intègre l'ensemble des éléments disparates. La proclamation le jour de la Pentecôte, donc qui s'est passée au moment où Pierre a pris la parole, il a dit que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voyez-vous, le principal victoire, c'est que, et qu'aujourd'hui, Elon Musk et d'autres qui sont des milliardaires veulent éradiquer, veulent essayer de repousser la mort, eh bien, elle fait partie de cet échec qui nous concerne tous en tant qu'humains, et qui a été relevé par Dieu comme un défi, et qui nous donne maintenant d'être vainqueurs sur la mort, que personne, aucun homme, aucun progrès technique, rien ne pourra y faire, si ce n'est ce que Jésus a fait et nous a ouvert la voie pour une nouvelle humanité. Et donc là, on trouve les conséquences de ce message, de cette proclamation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Repentez-vous. Voyez-vous, la repentance fait partie du salut. Et on verra tout à l'heure qu'entre religion et évangile, c'est deux choses différentes. Là, le principale réponse à qu'est-ce qu'on doit faire, parce que notre cœur a été vivement touché, bien repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême, c'est la conséquence de la repentance, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est pour ça aussi, on croit beaucoup au fait que le Saint-Esprit nous donne des dons pour le servir, et que nous ne servons pas notre propre force, sinon on est dans une religion. Dans le livre de la Révélation, donc de l'Apocalypse en français, il est écrit « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Formidable. Vous voyez, le kérigme, la proclamation, si vous proclamez ça, vous proclamez déjà la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus était mort, c'est un homme, parce que Dieu s'est fait homme, il est mort. Il est mort, il est vivant, et il est vivant au siècle des siècles. Et c'est pour ça que nous vivrons au siècle des siècles, éternellement, parce que nous sommes de la nature de Christ lorsque nous l'acceptons dans notre vie. Nous sommes délivrés du péché, et surtout de l'accusateur. Parce que le problème, ce que je disais tout à l'heure à Claudie, souvent, c'est nos pensées qui sont attaquées. Nos pensées, c'est l'accusateur qui se sert de nos pensées pour nous accuser. Et c'est pour ça qu'il faut être basé sur la foi et sur l'Évangile, en disant non, je suis une nouvelle créature en Christ, parce que j'ai fait une expérience de cette nouvelle. Si on n'a pas fait d'expérience, on ne peut pas le dire. Si on a fait juste le baptême, ok. Mais si le baptême ne renvoie pas une réalité, on n'a pas de puissance pour le dire, pour renvoyer l'accusateur. Donc, nous sommes délivrés du péché, notre accusateur, car Jésus a vaincu le péché et la mort, il est celui qui tient les clés du séjour des morts sur lequel Satan règne encore aujourd'hui. Satan a encore ses clés. Et justement, il veut, même en tant que chrétien, nous ramener dans le séjour des morts et nous faire perdre, si c'était possible, le salut. Et donc c'est un combat. Et tout à l'heure, quand on parlait du combat, eh bien, on reste dans un combat. Hein. Vous voyez, avec votre fils, nous aussi, on a les deux fils qui étaient malades. Enfin, on a vécu du combat. Et je suis sûr que tous, vous avez vos combats. Voilà. Ce n'est pas une vie tranquille, la vie chrétienne. Même si on est chrétien, il faut combattre. Parce que l'ennemi a toujours une puissance. Mais, en tant que chrétien, on peut demander au nom de Jésus, d'intervenir. Et c'est ce que nous faisons dans la prière et tout. Pour ça, la prière est importante. Jésus a restauré, mais déjà pas encore, hein, l'homme. Il a restauré l'homme, mais pas encore définitivement, puisque nous devons passer par la mort. Donc la restauration n'est pas finale. Donc Jésus a restauré l'homme dans l'autorité primitive de la domination et de la royauté sur la terre. Genèse 1:27. C'est ce que certains mouvements revendiquent, Genèse 1:27. Ok, dominion, on peut dominer, ok, mais on peut dominer quand vraiment on sera complètement libéré et quand Satan sera enchaîné définitivement. À ce moment-là, on aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, on aura une nouvelle humanité et on aura un corps spirituel, un corps, enfin un corps qui sera physique aussi, mais en même temps qui sera complètement parfait. Et on pourra dominer et être roi sur la terre. Mais en ce moment, on n'est pas roi sur la terre. Il suffit de voir l'écologie, les guerres, etc. Oui. Donc, Jésus règne et il a restauré l'homme. Lui, il est totalement restauré, en prémisse, comme à la Pentecôte. C'est une prémisse de ce que nous, on sera. Donc, si on regarde à Jésus, on voit ce qu'on sera, parce qu'on sera comme Jésus. Alors, revenons à la Pentecôte. La première Pentecôte, c'est les prémices. Hein, aujourd'hui, vous avez dans les champs les premiers épis qui vont bientôt servir. Voilà, et si on était en Israël, il y aurait une deuxième semence, etc. Bon, sauf qu'on n'a pas cette possibilité climatique. Donc, c'est les prémices. La Pentecôte, c'était la fête des prémices, de la première moisson, qui préfigure celle à venir. Parce qu'il y a une première moisson et une dernière moisson. Il y a trois fêtes qui sont fêtées. C'est la Soukhot, qui est la Pentecôte. Ah non, la Shavuot. Et ensuite, la fête des Tabernacles, parce que, en fait, l'année préfigure l'histoire générale de l'humanité. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas encore vécu la fête des Tabernacles dans sa destinée spirituelle. Donc, si je parle en grec, kerux, kerygma et evangelium, c'est ça qui est la base de notre foi. C'est Pierre annonce, hein, c'est le kerux. Pierre, c'est le héros, c'est celui qui est sur le champ de bataille, qui dit « La victoire est gagnée hein. !» Vous savez que en France, je crois, ils ont trouvé des soldats qui, 10 ans après, étaient encore dans des tranchées. Ils ne savaient pas que la guerre était finie, parce qu'il n'y avait pas de héros qui a passé en disant « Arrêtez !» Il y en a qui étaient avec leurs fusils, tout ça. Je crois que c'est 10 ans, enfin, je ne sais pas, c'est un truc comme ça. Des années après, ils ont trouvé... Mais oui, si on leur a pas dit, maintenant les Allemands sont partis, c'est fini, vous pouvez sortir de vos tranchées, ils restaient là, ils avaient leurs petites popotes, tout ça, enfin bon, ils avaient fait leur vie, quoi. Voilà. Non, la guerre est finie, les gars. Hein? Et Pierre a dit, c'est fini. Le premier homme, le premier nouvel homme qui est venu, Jésus, eh bien, il est ressuscité. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens le savent, et même des Français rationalistes, il faut qu'ils connaissent cette nouvelle, vous voyez, si on leur dit pas. Bon, au lieu qu'ils sachent. Alors on dit, ah oui, mais ils sont rationnels. Oui, ben, disons-le, peu importe. Disons-le dans le métro, disons-le au travail, disons-le partout. Il y a une nouvelle humanité. Vous cherchez la nouvelle humanité, la transhumanité, tout ça. Non, il y a une nouvelle humanité. C'est formidable, quoi. Moi, je suis émerveillé de ce livre, Dieu, la science et l'épreuve, quoi, qui aujourd'hui démontre que la science montre que Dieu existe et que c'est irréfutable. Et que si on veut vraiment le réfuter, eh bien, on est dans de la folie. Pierre annonce, proclame à voix haute, c'est le kérigme, le kérux, kérigma, l'évangile, euangélion. C'est la bonne nouvelle qui vient d'arriver. Il y a des héros, donc des kérux, du XXe siècle. Alors, je ne cite pas tous, hein, mais vous avez là-dessus, hein, mais j'aime bien cette frise, parce qu'elle nous rappelle qu'il y en a qui nous ont précédés, hein, et qu'il y en a qui vont nous suivre. Billy Graham, tout le monde le connaît, hein, le héros, celui qui proclamait dans le monde entier à des millions de gens voilà, le message de l'évangile. Nous, on a connu un évangéliste, il s'appelle Alain Choquet, qui est absolument... Nous, on était sidérés, on l'a vu sur les campus universitaires, qui a fasciné des gens et qui se sont donnés au Seigneur. On a vu des miracles, des conversions incroyables avec... il a fait, tiens, Sciences Po. Il était à Sciences Po et il avait une faculté de parole, d'expression parole et la puissance du Saint-Esprit qui a fait qu'on a vraiment été au bénéfice, Michel et moi, de ce ministère. Et John Wimber, qui aussi, on a pu le suivre dans les années 90, il est mort en 95, je crois, qui était un héros, un kérux, hein, qui annonçait kérigma evangelium. Alors j'aimerais que nous, on soit une église kérigmatique, charismatique aussi, parce que c'est les dons du Saint-Esprit, mais kérigmatique, qui proclame à voix haute la bonne nouvelle. Vous aussi ? Amen. Ah, il n'y a que Michel. Bon. J'aimerais que cette église, maintenant que je passe la main à d'autres pasteurs, cette église soit kérigmatique. il proclame à voix haute la bonne nouvelle et qu'il compte non pas sur ses forces pour la proclamer, mais qu'il compte sur la puissance de la proclamation, la parole de Dieu pour toucher les cœurs. Amen, amen. Et par la parole, par l'expression, ce qui est marqué dans la parole. Parce que ce qui ne sort pas de la parole, ça n'a pas de puissance. Ça n'a pas de puissance parce que ce n'est pas, c'est pas l'expression de ce qui s'est passé. La parole, c'est ce qui s'est passé. C'est historique. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, c'est historique. Et toutes les autres paroles sont des paroles qui n'ont pas la puissance de la réalité derrière. Et que ça touche des cœurs et des cœurs et des cœurs. Ouais. Amen. Ah, il y a déjà plus qui disent amen. Moi, je suis passionné ce matin de dire cette église sera kérigmatique. Amen. Alors, je vous donne quelques exemples de ce que fait l'Évangile. Alors, je prends un exemple du XVIIIe siècle que j'aime bien, qui est là.
En rose ?
Non, en vert. Non, parce que c'est marqué 1700, mais c'est le XVIIIe siècle. C'est toujours traître, ce truc-là. Ouais. Mais voilà, c'est le XVIIIe siècle. Il commence en 1700 et 1799. Dans ce siècle-là, vous voyez, donc presque 300 ans maintenant, eh bien, il y avait deux frères qui se sont convertis. Alors, je n'ai pas mes notes, donc je vais essayer de me souvenir de ce qui s'est passé. C'est qu'un jour, il y a une femme, Turner, je crois qu'elle s'appelle, Dieu lui a dit dans un rêve la nuit, tu vas dire à Charles Wesley, qui était l'hôte de ce jour-là, chez cette personne, Turner, et il lui a dit, tu iras le voir. Donc, il est allé voir Charles Wesley. Il a dit, aujourd'hui, si tu crois en Jésus, si tu acceptes Jésus, il était anglican, hein, mais pas du tout converti, hein, religieux. Il a dit, si tu acceptes aujourd'hui Jésus, eh bien, tu seras guéri. Parce qu'il avait une grosse maladie, je ne sais plus ce que c'était. Et donc, c'est Charles à droite, j'aurais dû mettre Charles avant John. Charles, il a fait ce que cette femme lui a dit. Il a dit, voilà, je dis ça, et puis il est reparti. Hein, bon. Et il a accepté Jésus. Il a été guéri. Et il est devenu, avec son frère, 3 jours après, qui s'est converti aussi, franchement, si c'est pas Dieu, c'est quoi, hein, sur un ordre d'une femme qui a reçu ça, eh bien, ils ont accepté le Seigneur et ils ont entraîné un réveil qui a duré 100 ans. Pas 4 ans, comme le réveil de Pays de Galles, 100 ans. Il faut le faire. Ceci étant, ils ont été touchés par les Moraves. Les Moraves qui étaient les piétistes allemands, qui eux aussi ont duré 100 ans. C'est, vous voyez, c'est étonnant. C'est des mouvements qui ont duré parce qu'ils étaient sur la parole, la puissance de Dieu. Et là, je voulais vous parler de William Holland. William Holland, qui, lui, était au bénéfice de Charles, voilà, qui lui était déjà juste converti quelques semaines avant de venir. Et Charles et John, dans Cambridge, puisque c'était des universitaires, ils ont créé le club des saints, je crois, je ne sais plus, Holy Club. Ils ont créé ce club, et dans ce club, ils ont étudié la Bible, à Cambridge. Et ils ont lu le commentaire de Luther. Et là, ce jour-là, Charles a lu le commentaire de Luther sur les Galates. Et qu'est-ce qu'il dit, le commentaire de Luther sur les Galates ? Luther dit... Est-ce que nous sommes sauvés par les œuvres ? Non ! Non ! Ce n'est pas possible. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et ça, ça a touché, c'est une proclamation. Proclamation à des gens chrétiens, calvinistes, enfin, qui étaient anglicans, tous les trois, hein, voilà, mais William Holland aussi. Et ce jour-là, alors là, j'ai un poème à vous réciter, mais je ne l'ai pas appris par cœur. En plus, il est en anglais, poétique et tout ça. Mais il est absolument formidable de voir que quand il a entendu « Non !» Ce n'est pas par les œuvres, dans les commentaires, son cœur a été touché. Vous voyez, comme la Pentecôte, le cœur est touché. Et son cœur était touché au point où, voilà, ça ne l'a plus quitté. Et il a rencontré le Seigneur à ce moment-là. Et donc, il s'est joint à John et Charles pour connaître ce réveil qui a complètement transformé l'Angleterre à ce moment-là. Il y en a même des historiens, hein, je parle des historiens pas chrétiens, hein, qui disent que grâce à ce réveil, ça s'appelle le Grand Réveil, Great Awakening, le Grand Réveil, eh bien, il n'y a pas eu la même révolution sanglante qu'en France. C'était à peu près les mêmes difficultés qu'ils avaient, les mineurs, à l'époque, parce que Charles et John, ils ont prêché à l'extérieur, hein, sans micro, sur des dizaines de milliers de gens qui entendaient la parole de Dieu. Hein. Imaginez, il n'y avait pas de sono. Ils ont touché les mineurs, les gens qui étaient délaissés par l'Église, délaissés, et ils ont évité une révolution sanglante en Angleterre. Vous voyez l'influence de l'évangile, pas de l'évangile, pas du christianisme, de l'évangile. Amen. Deuxième expérience, c'est le grand réveil aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, moi j'étais un peu du mal, je ne suis pas historien, mais en fait les Anglais étaient aussi aux États-Unis, hein, jusqu'à ce que voilà, les Américains les mettent dehors et cette fameuse guerre. Mais ils avaient toutes les colonies là-bas, en Géorgie, en Virginie, etc. Et donc, au Connecticut, il y avait un dénommé Nathan Coles, 1740, qui a laissé des traces de la prédication de Whitfield. Whitfield, c'était un contemporain de John et Charles Wesley, mais lui était plutôt calviniste, et bon, John c'était plutôt arminianiste, mais bon, ça c'est des petites différences théologiques, et c'est pas très grave. Mais il avait la même puissance de parole. Whitfield, il s'adressait à des dizaines de milliers de gens, à l'extérieur, en plein air, pour proclamer l'évangile. Et Nathan Coles, alors j'ai pas non plus la lecture de ce que je voulais faire, qui a un magnifique témoignage quand il a entendu Whitfield. Il a dit déjà quand il est venu l'écouter, et c'était une soirée où il y avait une rencontre dans le Connecticut, et réécouter, il a dit, quand je suis arrivé, il connaissait pas le Seigneur, c'était un fermier. Agriculteur, et il a dit, quand je l'ai vu, il rayonnait de la gloire de Dieu. Et quand il a parlé, ses paroles m'ont touché le cœur, et mon cœur était saisi. Et il a rencontré le Seigneur par des paroles en disant, Jésus t'aime aujourd'hui. Voyez-vous, la proclamation d'une parole, d'une bonne nouvelle qui est spécifique, qui n'était pas la même que celle de. Du précédent, mais Nathan Cole a été touché. J'aimerais venir au XXe siècle et parler de ma conversion à moi, que je connais bien, qui s'est passée en 68 à Reims. En 67, c'est la guerre des 6 jours, où j'étais touché au mois d'août avec l'ami que j'ai rencontré. Et en 68, en février, j'ai assisté, parce que mon école d'ingénieur était à Châlons-en-Champagne, à côté de Reims. Et quand j'étais à Reims, il y avait une rencontre. Et dans cette rencontre, j'y étais. Ça, c'est la cathédrale de Reims. Et il y avait ce passage de 1 Corinthiens en disant, soyez réconciliés avec Dieu. Et le message a duré, bien sûr, plus d'une heure, 1 heure et quart. Hein, c'était un évangéliste qui parlait. Et ce mot réconcilié avec Dieu m'a touché. Voyez-vous, Dieu choisit une parole comme précédemment. Et ce message m'a touché au point où, c'est Romains 5,10 et 1 Corinthiens 5,18, il m'a touché. Et quand je suis rentré, donc de Reims à Châlons, quand je suis rentré dans ma chambre, ce message résonnait, ça y est, réconcilié. Moi, j'étais un catholique extrêmement servant de messe, je me confessais sans arrêt, j'avais pas fait disons, je suis pas délinquant, quoi. Voilà, donc souvent, je confessais parce qu'il fallait confesser quelque chose. Tiens, j'ai pris un morceau de sucre parce que ma mère a dit, ah, il faut pas prendre le sucre. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, donc, disons, j'étais clean du point de vue religieux. Mais là, j'ai eu la conviction de mes péchés. Où j'ai vu que ça transperçait le cœur de Dieu, où j'ai ressenti que mes péchés avaient crucifié le Seigneur de gloire. Et là, j'ai pleuré, pleuré, pleuré pendant des heures. Et un fardeau est parti. Un fardeau est parti. Alors, j'étais chrétien. J'étais engagé, je faisais les pèlerinages. Bon, je n'ai jamais pris les Marie et les Saints, mais les pèlerinages avec les abbés, partout, etc. J'étais, voilà, rien à me reprocher. Mais là, soyez réconciliés. Waouh! Parole du Seigneur qui m'a touché et m'a transformé. Et à partir de là, j'étais plus le même. Autre expérience du XXe siècle qui est absolument fondamentale, dans les années 70, on a connu, et moi j'ai connu cette théologie de George Ladd, quand il est sorti en France en 1974, je l'ai tout de suite dévoré. C'est un retour à une théologie biblique basée sur le kérygme, sur la proclamation de la bonne nouvelle. Alors c'est étonnant, j'ai pas le temps ce matin de vous faire le résumé entre les pères de l'Église qui étaient sur le kérygme, proclamation, la preuve c'est première Pentecôte, c'est Pierre, hein, voilà. Ensuite, après, Moyen-Âge, c'était la scolastique, on mélangeait la philosophie, etc. Ensuite, à la Renaissance, c'était Luther et Calvin. Bon, ils n'ont pas pris en compte le contexte historique à tel point que Luther disait l'épître de Jacques, c'est une épître de paille, il faut la brûler, quoi, parce qu'il ne comprenait pas bien ce contenait l'épître de Jacques, qui est formidable. Bon. Arrivé au XXe siècle, eh bien, il y a eu, entre autres, le rationalisme qui a développé la théologie libérale, au point que les catholiques ont fait Vatican I pour contrer les protestants qui disaient que Jésus n'est pas ressuscité. On est arrivé, les protestants, jusque-là. Fin 1800 et quelques, fin 19e siècle. Vous voyez où peut aller la théologie? Et là, la théologie revient sur la Pentecôte, la première Pentecôte. Le kérygme, la proclamation de la bonne nouvelle. Et ça, c'est la théologie de là. Le monde nouveau, l'ordre nouveau est arrivé en la personne de Jésus et par sa mission. Ça, c'est le centre même de la théologie de l'âme. Le déjà, pas encore, du royaume de Dieu. La justice du royaume de Dieu est le fruit, ça, c'est un des motos de George Lamb. La justice du royaume de Dieu est le fruit du règne de Dieu dans le cœur humain. Du règne de Dieu dans le cœur. Du règne dans le cœur à condition qu'on l'appelle. Il ne force pas son règne. Même s'il règne dans les cieux, il règne bas. La preuve, vous voyez bien tous les hommes qui refusent Dieu. Mais il règne dans le cœur. Et Dieu doit régner dans nos vies maintenant si nous devons entrer dans le royaume demain. Et ça, c'est un conseil. Conseil avisé, la théologie, de chercher à ce que Dieu règne dans notre cœur. Et là, on peut annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. John Wimber, un jour, Yves Cornas a dit « Tiens, j'ai un billet là pour aller en Angleterre, je ne peux pas y aller. Est-ce que vous pouvez y aller ?» Au moins, c'est un gars qui ne fait pas que rallonger les jambes. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui rallongeaient les jambes. Bon. Il dit « Non, bon, d'accord, donc on y va. » Et là, moi, j'étais assis. Disons comme on avait peur, hein, de parce qu'on était aux États-Unis pendant... Canada, États-Unis. Donc, on avait peur un peu de tous ces télé-évangélistes. Je dis, oh là là, ça n'a de plus. On s'est assis au fond de gradins où il y avait 3000 personnes. Tout à fait au fond. On dit, si ça ne va pas, putain, on sort. Hein. Avec Michel, on était déjà à côté de la porte. Et voilà, John Wimber, pendant une heure, il prêche sur la théologie de l'âme. Dans une heure. Et ça, à chaque réunion, il prêchait sur, pendant une heure, la théologie de l'âme, un des éléments de la théologie de l'âme, théologie du royaume. Royaume, déjà pas encore. Et ensuite, après, eh bien, il mettait en pratique la théologie de l'âme, la théologie du royaume. Il mettait en pratique, parce qu'il était un disciple de l'âme, à Fuller Seminary, à Pasadena, en Californie. Ils étaient profs, l'un à côté de l'autre. Il y en avait un qui était prof de missiologie, c'était John Wimber, et l'autre prof de théologie. Et ils se connaissaient comme des copains. Voilà. Et ils travaillaient ensemble. Et lui, il mettait en pratique, parce qu'il avait reçu des dons absolument incroyables, des dons, et il produit des signes, des miracles, comme au temps de Jésus. Mais de nos jours, au XXe siècle. Il nous disait même qu'en Afrique du Sud, ils avaient tellement de résurrection de mort qu'ils devaient, avant les réunions, se réunir en disant « Seigneur, dis-nous pour qui nous prier, parce que le petit pépé qui a 95 ans, il a peut-être envie de partir. Hein. Bon. Donc on ne va pas le ressusciter. » Donc vous voyez, ils avaient des problèmes comme ça. Bon. Pour montrer, nous, on a vécu ça. Avec Michel, on a été transformés quand on est revenu ici. Et dans l'Église, on a posé les mains, et c'est pour ça que je parle d'une Église kérygmatique. On a posé les mains au nom de Jésus, sois guéri. Et il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne. Parce que quand on voulait qu'un Français soit touché, s'il n'y a pas la puissance qui accompagne la parole. Il faut de la puissance, les amis. L'Évangile est une L'évangile est une
puissance.
L'évangile est une
puissance.
Donc il faut de la puissance. Amen. John Weber a tellement touché l'Angleterre, parce que Dieu lui a dit, c'était l'Angleterre et pas la France ou l'Allemagne, etc. Il était en Angleterre et il a transformé les églises anglicanes. Quand vous allez en Angleterre, vous regardez à l'entrée des panneaux, des grandes cathédrales, à l'entrée, hein, cour alpha, machin, etc. Pratiquement dans toutes les églises anglicanes. Aujourd'hui, il y a 30 millions, tenez-vous bien, qui ont suivi les cours alpha dans le monde. Dans le monde. Oui. Voilà les fruits. Les fruits d'une évangélisation de puissance kérigmatique. Alors, quel est le résultat du kérigme de l'évangile ? Eh bien, c'est enlever les fardeaux et libérer les humains de la culpabilité et de la honte. C'est ça. C'est viens déposer les fardeaux à la croix et tu seras libéré. C'est une question de libération. Tout le monde est chargé. Tous les êtres humains sont chargés par la honte, la culpabilité, parce qu'on sait que tous nos arrière-grands-parents ont péché. Donc ça nous suit, on le reçoit dans notre gène. Vous voyez, donc il faut le libérer de ça. Alors quel est le résultat du kérigme de la religion, de la proclamation de la religion ? Ben, c'est exactement l'inverse, c'est de poser des fardeaux en prodiguant des conseils. Tu dois faire ça. Ou des dogmes, encore pire. Ou du légalisme. Vous voyez, toutes les religions, y compris la religion chrétienne, eh bien posent des fardeaux. Alors, je voudrais juste évoquer une nouvelle forme de légalisme évangélique. Et là, pour ceux qui veulent en savoir plus, écoute Tim Keller qui parle dans une vidéo sur comment l'évangile façonne nos comportements. La nouvelle forme de légalisme, parce qu'il y a deux façons d'agir dans notre nature chrétienne, hein, je parle, hein, parce que je ne vais pas aborder tous les problèmes de philosophie du monde. Nature chrétienne, c'est ou devenir laxiste ou légaliste. On n'a pas d'autre choix. Ou d'être libéré par l'évangile. Mais naturellement, et les évangéliques aujourd'hui deviennent légalistes. D'une certaine manière, vous allez voir. Laxiste, c'est voilà, les mœurs. La grâce va couvrir les mœurs. Bon, c'est pas grave. C'est une grâce facile. Vous voyez. Alors que quand le doyen de la faculté était venu ici, il a dit...
La grâce n'est pas un truc qu'on manipule, mais une personne qu'on a offensée et qui a mal.
Voilà, merci beaucoup. La grâce n'est pas un bidule qu'on manipule. Voyez. Et souvent, c'est des bidules qu'on manipule, la grâce, ok. Mais la grâce, ça a coûté la vie à Jésus, la grâce. Voyez. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, la grâce. Et la parole de Dieu est sérieuse. Donc le laxisme, c'est une tendance. Et après, c'est le légalisme. Vous connaissez le légalisme, hein, les pharisiens. Il faut pas, tu dois faire ça, alors que moi, je le fais pas. Je parle du haut de ma connaissance pour que tu fasses ça, etc. Mais aujourd'hui, il y a un légalisme évangélique qui est subtil, qui s'introduit. C'est le kérigme, l'annonce. L'Église doit être cool et doit répondre à nos attentes, être un lieu d'épanouissement, d'amour, de bonheur fraternel, d'échange, de débat, etc. De plus, on participe au programme de Dieu pour sauver le monde et nous sommes dans le train qui va droit au paradis. Ça sonne spirituel, hein, mais c'est une forme de légalisme. J'ai pas le temps ce matin parce que je vois l'heure qui tourne, je suis désolé. Donc je ne peux pas développer. Mais réfléchissez à ça. Aujourd'hui, les évangéliques tombent dans ce légalisme très subtil. Parce que l'ennemi est rusé. S'il ne peut pas nous avoir à droite, il nous a à gauche. Et ça, c'est une nouvelle forme de légalisme qui s'introduit. On est dans un type de légalisme subtil qui place un fardeau de manière indirecte en évoquant l'idée de faire partie d'une communauté idéale et enviable. Alors qu'elle est en contradiction avec les enseignements de Jésus. Ça, les gens ne le voient pas. Quand ils disent « Ah oui, on écoute, c'est bien, bon, tout le monde peut s'exprimer, machin, etc. » Ok. Mais quand c'est en contradiction avec l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est problématique. Et pourquoi c'est en contradiction ? Parce qu'on oublie complètement que Jésus a dit que si on voulait être son disciple et le suivre, c'est Matthieu 16, 24, il fallait prendre sa croix chaque jour et renoncer à sa propre vie en échange de la sienne. C'est le fameux « trouver-perdre et perdre-trouver » de Matthieu 24. Et ça, c'est obscurci par l'idée « Ah non, il faut l'amour, il faut l'amour, il faut qu'on s'entende bien. » Bien sûr, il faut qu'on s'entende bien, mais c'est un résultat. C'est pas un but, c'est pas un objectif. Et c'est là qu'on est dans le comment. Car le royaume de Dieu est déjà là, mais pas encore là. Donc on est encore dans la vigilance permanente. Alors l'évangile peut-il façonner notre vie ? La loi, dira-t-on, peut façonner le comportement. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. En France, voilà, on fait ça, sinon tu vas en prison, etc. Donc on arrive à façonner les gens pour qu'ils ne fassent pas un certain nombre de choses. Sinon il y a la police, il y a la prison, il y a tout ça. Bon. Bien sûr, ça, on comprend que la loi peut façonner, mais l'évangile, est-ce que l'évangile peut façonner notre comportement ? C'est là la question. Eh bien, une nouvelle proclamation, kérigme, est-ce qu'une nouvelle peut-elle le faire ? Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des gros problèmes. Bon, la loi, je comprends. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui reviennent à la loi, les chrétiens, parce que voilà, il faut pas, etc. Mais on s'écarte de l'évangile. Vous voyez ? Parce que l'évangile, c'est pas la loi. C'est l'esprit de la loi, c'est pas la loi. Et ça, c'est les béatitudes que j'ai commencé. Je crois que j'ai fait les deux premières et je n'ai pas fait les autres. C'est l'esprit de la loi que Jésus a enseigné. Alors, si l'évangile, si la nouvelle, si le kérigme change, pourquoi et comment ? Il y a Timothy Keller, que j'ai écouté là, sur cette vidéo, qui prend un exemple. Alors, il faut que je le prenne parce que je ne l'ai pas vécu moi-même. Il y a une femme qui est venue un jour, voilà, à la fin, enfin bon, lui, c'est une église de 3-4 000 personnes à New York. Hein, et donc, cette femme, il voit qu'il est intrigué. Qui est venu visiter son église, alors il lui parle à la fin, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Oh, vous savez, moi je ne suis pas croyant, mais voilà, je viens voir qui vous êtes et tout ça, voilà, je suis intrigué. » Il dit « Mais racontez-moi votre histoire. » Et donc il raconte son histoire, qui est la suivante. Elle était dans un travail, une grande télé aux États-Unis, je ne sais plus laquelle, et elle était licenciée. Voilà, elle a fait une grosse faute, une faute grave. Elle a été licenciée. Et son patron l'a repêchée. Son patron, dit-il, qui est dans son église d'ailleurs, il a une très grande crédibilité dans ce travail. C'est-à-dire qu'il était en haute estime, un peu comme aujourd'hui, on mettrait le prix, comment on appelle ça, le prix. Non, mais on avait deux personnes qui ont eu le prix, là, comme Philippe, meilleur employé, etc. Voilà. Voilà, c'était un crédit. Et il a perdu tout ce crédit parce qu'il a défendu cette femme. Et comment est-ce qu'il l'a fait ? Eh bien, il est monté voir le supérieur qui l'a licencié. Il a dit, écoutez, cette femme-là, ce n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Parce que je l'ai mal formée. Parce qu'elle a fait ça, mais c'est moi qui... Il a pris toute la honte sur lui. Et lui, il a perdu tout le crédit. Parce que, voilà... les supérieurs ont dit non, on voit bien ce qu'elle a fait, mais parce qu'il avait ce crédit, il a pu la sauver. Et du coup, elle est revenue à son boulot. Hein, et en arrivant à son boulot, il a dit mais pourquoi vous avez fait ça ? Elle dit ouais, mais ceci, cela. Et puis il lui disait pas. Et elle a continué à dire oui, mais quand même, je comprends pas pourquoi. Elle a dit parce que je suis chrétien. Ah ! Vous êtes chrétien. Il savait pas qu'il était chrétien. Et il a dit, mais pourquoi vous avez fait ça ? Il a dit, mais écoutez, moi, j'ai été touché par le Seigneur qui m'a sauvé de mes péchés. Il m'a fait grâce. Et à cause de cette grâce, eh bien, je ne peux plus raisonner autrement que de faire grâce aux gens, de les aimer, de les comprendre, de les aider à sortir de là où ils sont. Et ça, ça l'a touché au point de venir dans l'église pour dire « C'est qui ces chrétiens ? C'est qui ces chrétiens ? Comment est-ce qu'ils... » Vous voyez, ça c'est l'évangile qui est une motivation intérieure. Intérieure. Parce qu'il l'a fait malgré le fait qu'il a perdu son crédit, parce qu'il ne pouvait plus faire autrement, parce qu'il était formaté par l'Évangile de cette manière-là. Et du coup, il a fait cette femme, et du coup, cette femme, certainement, elle a peut-être accepté le Seigneur, il ne l'a pas dit, mais voyez, le témoignage, voyez, c'est pas juste un témoignage, oui, le Seigneur m'a sauvé, moi c'est bien, je suis été baptisé, tout ça, bon, ça, c'est un témoignage. Hein. Mais un témoignage kérigmatique, c'est pour ça que j'ai dit, je voudrais que cette église soit kérigmatique, c'est un témoignage de cette puissance-là, qui va au fond du cœur et de la motivation, parce que c'est la motivation qui change les comportements dans l'Évangile. Trois exemples de façonnage biblique de l'intérieur du cœur, c'est la collecte. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, pardon, j'ai pas le temps de lire, parce que j'ai débordé l'horaire, la collecte généreuse de Paul. Paul, c'est intéressant parce que tu peux le prendre un jour pour présenter les offrandes. Il a tout un développement où il montre que cette collecte qu'il voulait faire pour Jérusalem lui tenait à cœur. Alors, lui tenait à cœur, voilà, parce que c'était pour subvenir à des pauvres qui n'avaient rien, et là, les Galates, les Corinthiens, ils avaient de l'argent. Eh bien, il ne va pas utiliser la loi. Il ne va pas dire « il faut donner ». C'est important de donner, c'est capital de donner, ce qu'il aurait pu faire, parce que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est là que vous voyez le cœur de l'Évangile. Car vous connaissez la grâce. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est comme ça que répond Paul. Et vous, c'est la motivation. Bien sûr, la collecte est importante, mais si vous donnez parce qu'il faut, ce n'est pas le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est la grâce que ce que Jésus a fait, l'œuvre de Jésus et de sa mission. Deuxième exemple, c'est Éphésiens 5. Éphésiens 5, vous connaissez tous Éphésiens 5. Hein, qui ne connaît pas Éphésiens 5? C'est sur la femme qui doit obéir au mari, non?
Non.
Femme obéissait... En fait, dans ce passage, Paul s'adresse plus aux hommes, aux maris qu'aux femmes. Si vous faites une étude biblique pour approfondir, ce serait bien de le faire. Il s'occupe plus de l'attitude du mari par rapport à la femme. Parce qu'il le compare à Christ et à l'Église, qui est l'épouse. Le mari a une femme qui est l'épouse. Christ, il a une femme qui est l'épouse, c'est l'Église. Et il prend cette comparaison et il parle de la générosité de Christ. Et pour faire court, le message de base, c'est que le mari doit être généreux avec sa femme, comme Christ l'a été avec nous, son épouse. Ça, c'est le comportement de la motivation de base de l'Évangile. Générosité de Christ, le mari doit être généreux avec sa femme. Généreux à tout point de vue. Et ça ferait toute une prédication. Dernier exemple, Tite 2. Tite 2, c'est les mœurs. Comment est-ce qu'on... Oui, toi, tu n'es pas bien habillé, toi, tu as une jupe trop courte, toi, ceci, cela, enfin, les mœurs, etc. Bon, ça, c'est la loi. Et bon, voilà, donc là, on règle les comportements, etc. Paul dira, la grâce nous a appris et enseigné à dire quoi ? Dans le cadre de mœurs, dans le cadre de jugements, qui nous sont tous, on a tous tendance à juger les apparences, les machins, etc. Et Paul dira, la grâce nous a appris et enseigné à dire quoi ? À dire non à l'impiété. C'est la grâce qui nous dit qu'il ne faut pas vivre dans l'impiété. Ce n'est pas la loi. La loi, bien sûr, est dit, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. D'ailleurs, la loi chez les Juifs est très, 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 très argumentée, etc., compliquée, si vous la suivez. Eux, de toute façon, ils voulaient tellement la suivre qu'ils en ont rajouté, voilà, que 10 commandements, ils ont terminé, je ne sais pas combien, pour être sûr. Mais la grâce, il suffit que Jésus soit dans votre cœur et que vous soyez motivé à suivre Jésus et à le faire par l'action du Saint-Esprit, et vous avez immédiatement le comportement qui est là. Vous voyez, c'est une simplicité enfantine, la bonne nouvelle. Dernier exemple, Paul s'oppose à Pierre. Pierre, il a failli, il n'a pas bien fait, il est allé voir les païens, et au dernier moment, quand il a entendu que Paul est arrivé, hop, il s'est barré. complètement dans l'hypocrisie, alors qu'en fait, il était avec les païens, parce que Dieu lui a dit d'aller voir les païens. Et qu'est-ce que Paul, comment est-ce qu'il va le reprendre ? Ça aussi, c'est la Paul dans l'Église, comment on se reprend ? Comment est-ce qu'il va se reprendre ? Reprendre Pierre. Eh bien, voilà, je lis Galates 2, 11. « Mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face. » Pas derrière, pas des rumeurs, en face, personne à personne. Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Verset 15. Nous sommes juifs de naissance, donc Paul et Pierre, et nous péchèrent d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Même si nous sommes juifs, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Voyez-vous ? En fait, il lui fait un exposé de théologie. Un exposé de ce qu'il faut, des choses qui ont changé avec Jésus. Et Paul ne dit pas à Pierre, il aurait pu dire à Pierre, tu as brisé la loi antiraciste, par exemple. Quelqu'un peut éteindre là-haut les lumières, là. Il y a une fonction éteinte. Non, c'est à gauche. C'est à gauche. Voilà, merci. Pierre aurait pu dire, utiliser la loi. En disant, ouais, on n'est pas raciste ici. On n'est pas raciste. Vous voyez, alors, des pasteurs, des prédicateurs, disent, ah, on n'est pas raciste, ceci, cela, la loi. Non, il n'a pas dit, tu as brisé la loi. Il dit, non, c'est à cause de l'Évangile. C'est-à-dire de Christ. L'Évangile, c'est Christ. Christ et l'Évangile, c'est la même chose. Que tu ne dois pas te comporter de la sorte. Voyez-vous ? Il utilise l'Évangile et pas la loi. C'est deux choses différentes. Et c'est comme ça que vous pouvez garder la paix dans une église. Parce que si vous venez avec la loi, tu dois pas, tu fais ceci, et puis dans telle église, on fait ça, dans telle église, on fait pas ça, ben on n'en sort plus. On est comme dans le monde. Mais si on dit, par la grâce de Dieu, c'est à cause de l'Évangile, à cause de l'Évangile, de ce que Jésus a fait pour toi, et de ce que ton cœur a été touché, que je te conseille que, voilà, tu restes avec les païens, puisque tu l'as reçu à cœur. Alors, testons les fruits, et je terminerai là-dessus, sondons la motivation profonde de nos actions. Comment est-ce que nous agissons ? Est-ce que c'est par la loi ou par l'Évangile ? Et essayons de reprendre les bons rails, ceux de l'évangile kérigmatique, qui proclame, comme à l'origine, les apôtres et les prophètes, d'autant plus que Dieu a permis que la théologie revienne à cela. Théologie de l'âme et du royaume que nous portons très haut, puisque dans RNC, eh bien, on porte l'évangile du royaume. Notre défi, c'est de promouvoir une église et une évangélisation kérigmatique. Une évangélisation kérigmatique. Je sais, quand on est arrivé ici, nous étions touchés par Wimber, etc. On allait dans toutes les maisons ici, en fait, presque toutes les rues d'Elisabethville, on les a jalonnées, etc. Et on rentrait et on disait, au nom de Jésus, on priait pour les malades, pour les guérir, etc. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu le succès de Wimber. Mais la motivation y était. Mais recommencer. L'évangile n'est pas terminé. Vous croyez à l'évangile ? Vous croyez en Jésus qui est mort et ressuscité et qui est aujourd'hui, qui règne dans le ciel, mais il veut régner sur la terre au travers de nous. Donc si on n'évangélise pas par la puissance du Saint-Esprit, c'est vrai qu'avec les Français, les raisonnements, ça ne marche pas. Mais moi, j'étais Français comme tout le monde et cette proclamation, soyez réconciliés, ça a tout fait. Voyez, il suffit d'un mot, mais sous la puissance du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. Alors, proclamons l'Évangile, qui proclame et démontre la venue du royaume en agissant avec l'assistance et la puissance du Saint-Esprit. En conclusion, prions, et je vais terminer par la prière, pour de nouveaux héros, c'est-à-dire des prédicateurs, héros et prédicateurs, pour une nouvelle, voire dernière Pentecôte, une Shavuot, en vue de célébrer la fête des tabernacles, la Soukhot, qui est en fin de moisson. La fin de moisson, elle arrive. Elle arrive. Nous sommes plus proches aujourd'hui que les pères de l'Église. Mais on ne sait pas le jour ni l'heure. Nous, on n'a pas à savoir le jour ni l'heure. Nous, on a à proclamer l'Évangile. Là, ici et maintenant, dans la génération où Dieu nous a placés, à l'endroit où Dieu nous a placés. Et que le Seigneur, nous prions que ton Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne. Ton règne, qui est sur la terre, sur l'univers, mais pas dans les cœurs des Français, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et au travers de nous. Parce que nous serons kérigmatiques, nous serons des proclamateurs de la nouvelle. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour que cette Pentecôte ne soit pas juste une fête comme ça, qu'on célèbre comme un mémorial du passé. Mais Seigneur, cette fête nous rappelle que tu veux aujourd'hui nous utiliser pour être des proclamateurs de ta parole, de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est aujourd'hui la même hier, aujourd'hui éternellement, Seigneur, et qui peut aujourd'hui toucher les cœurs et transformer les vies. Et Seigneur, tu peux aujourd'hui, au travers de nos mains, si nous croyons vraiment dans les paroles que nous disons au nom de Jésus, eh bien guérir les malades, et même ressusciter les morts, et même, Seigneur, voir des miracles extraordinaires, mais qui ne reviendront pas à notre gloire, qui est ta gloire à toi. Seigneur, tu es capable de changer, de les transformer, afin qu'ils soient à ton image. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.